Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
2,21 gigawatts! Mon Dieu!
Recherche, scalaire.
Fred, qu'est-ce que tu fais dans cette tenue?
Chut, Jamy, je mène une enquête.
Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent.
Sixième Science, un podcast 20 minutes et science et avenir.
Maintenant, laisse-moi. Je dois méditer.
Je vais rester ici et réfléchir un peu.
J'espère que cette nuit de méditation vous aura été profitable.
Fermez les yeux et concentrez vos pensées sur ma voix. Asseyez-vous confortablement en tailleur, laissez les mains reposer sur les cuisses, le dos doit être bien droit. Voilà, vous êtes dans la position idéale pour commencer une séance de méditation et pour écouter cet épisode de 6ème Science. Devenu un loisir populaire, on pratique aujourd'hui la pensée sur soi comme on fait une sortie running. S'arrêter une dizaine de minutes sur ce qu'il se passe dans notre tête permettrait de diminuer le stress, d'améliorer la qualité de son sommeil ou de se remettre plus facilement d'une rupture. Ce ne sont pas les seuls avantages de la méditation, et contrairement à l'image qu'on a d'elle, celle-ci n'a pas que des avantages. Aussi concentrés que des moines bouddhistes, mes invités sont au nombre de trois. Les deux premiers nous arrivent tout droit du lointain temple de science et avenir, Elena Sander et Hugo Jalinière, namasté.
Bonjour.
Bonjour.
Nos éditeurs commencent à bien vous connaître, cela dit, un rappel ne fait jamais de mal. Elena, tu es la spécialiste en neurosciences de la rédaction et Hugo, tu en es l'expert santé. Notre dernier complice a atteint le nirvana quand je lui ai dévoilé le sujet de cet épisode. Oyana Gabriel est journaliste santé à 20 minutes. Bonjour Oyana.
Bonjour.
Alors, comme on risque de pas mal parler de méditation pendant cette émission, quelqu'un peut-il me donner une définition de la méditation ? Elena.
En réalité, on devrait parler des méditations parce qu'il y en existe de multiples formes. Mais on va dire, pour simplifier aujourd'hui, que la méditation, c'est un entraînement cérébral qui consiste à apprendre à diriger son attention et à réguler ses émotions.
Très bien, c'est très clair. Historiquement, d'où vient cette pratique ?
Alors, le plus souvent, on fait référence au bouddhisme. Mais en réalité, les premières traces de personnes en train de méditer remonteraient à la vallée de l'Indus, c'est-à-dire à moins de 2000 ans, donc avant Jésus-Christ, où on retrouve dans les bas-reliefs des petits personnages en lotus, avec les yeux semi-ouverts. Donc vous voyez, ça ne date pas d'hier.
Oh, ça date pas d'hier, mais en revanche, on en parle beaucoup aujourd'hui. Donc les médias, les institutions publiques comme les hôpitaux, le ministère de la Santé, mais aussi le milieu scientifique, en parle depuis quelques années. Alors voilà, j'ai pas une datation précise, mais on sent qu'il y a un gros élan autour de la méditation. D'où vient le déclic ?
On peut le dater puisque ça remonte aux années 80. Où là, un chercheur du MIT, donc aux États-Unis, qui s'appelait Jon Kabat-Zinn, et qui lui-même méditait et faisait du yoga, a eu l'idée d'adapter cette pratique à un contexte plus médical, c'est-à-dire qu'on pourrait utiliser la méditation pour lutter contre le stress. Et donc, il a créé la MBSR, donc la Mindfulness-Based Stress Reduction, qui est vraiment un protocole cadré, précis et laïque surtout, pour lutter contre le stress. Et depuis qu'il a créé ce protocole, eh bien, les scientifiques s'en sont emparés, ont mené des études, et ce protocole est même entré à l'hôpital.
Alors en France, on parle beaucoup de la méditation de pleine conscience. Comme tu l'as dit en introduction, ça veut dire qu'il y a plusieurs formes de méditation.
Oui, et la MBSR, donc de Jon Kabat-Zinn des années 80, est basée sur la pleine conscience. Mindfulness veut dire pleine conscience. La pleine conscience est une forme de méditation. Et si vous voulez, elle consiste à faire attention à tout ce qui nous entoure ou bien faire attention à nos sensations et nos émotions internes sans jugement, voilà, tout simplement.
Du présent.
Et être présent,
voilà.
Ici et maintenant.
Ne pas ruminer le passé et ne pas se projeter dans l'avenir aussi.
Très bien, alors j'espère que dans vos écouteurs, vous êtes bien dans l'instant, ici et maintenant, à nous écouter. On va parler de la portée un peu médicale aujourd'hui de la méditation. Oyana, est-ce qu'on peut considérer la méditation comme un traitement ?
Alors, ça fait encore débat. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que ça entre à l'hôpital. Il y a des hôpitaux psychiatriques qui proposent des protocoles. Donc, sur le même système dont tu parlais, il y a des choses maintenant pour les addictions. Le protocole s'appelle MBRP, Mindfulness Based relapse prevention, et c'est pour éviter les rechutes pour des personnes addictes. Ça intéresse aussi la ville. Il y a de plus en plus de psychiatres qui commencent à s'y intéresser, à se former, à en parler, à conseiller à leurs patients l'application Petit Bambou, dont on va sans doute parler, ou d'autres applications, parce que ça commence évidemment à se développer. Comme pour chaque pratique un peu à la mode, il faut parfois faire attention et être méfiant. Il n'y a pas de remède miracle, hein, comme d'habitude, pas de scoop. Mais il y a des études qui commencent à être publiées pour prouver l'efficacité dans certains cadres.
Ok, on parle donc de certains troubles, c'est ça ? On utilise la méditation pour quel type de troubles aujourd'hui ? Elena ?
On peut revenir à la science, hein. Il y a environ 2000 publications sur le fameux protocole MBSR, mais aussi MBCT, c'est ça que je voulais rajouter. C'est un autre protocole, la méditation contre les rechutes dépressives. Donc on a étudié ces programmes de méditation. Et alors, sur ces 2000 publications, on peut dire quoi ? Aujourd'hui, de manière avérée, c'est que c'est bon pour réduire le stress. Ça tombe bien. C'est bon pour réduire les rechutes dépressives. Alors attention, on en parlera avec Hugo tout à l'heure. Il ne s'agit pas des dépressions aiguës, mais bien des rechutes dépressives. C'est bon pour retrouver le sommeil et puis aussi comme antalgique. Et il paraît même que ça permettrait de ralentir le vieillissement.
Pas mal, pas mal, pas mal. Et quand tu dis c'est bon, c'est globalement c'est considéré comme efficace, ou j'ai cru voir dans votre dossier qu'il y a certains moments...
C'est une efficacité
moments,
modérée, c'est ça. Voilà. Mais comme disait Oriana, c'est pas la panacée. Hein. La méditation fait pas repousser les cheveux.
Bon, très bien. Mais justement, est-ce qu'aujourd'hui, on se pose la question de savoir si la séance de méditation pourrait être remboursée par la Sécu ?
C'est une possibilité. En juillet 2019, le ministère de la Santé a organisé un colloque dédié à la méditation. C'était un acte fort, puisque ça prend en compte l'irruption de ces techniques qui sont encore parfois décriées pour leurs prétentions thérapeutiques. Mais pour l'instant, ce n'est pas remboursé pour une raison très simple, c'est que pour qu'un traitement soit remboursé, il faut une indication, il faut avoir évalué un service médical rendu qui doit être le plus important possible. Et on parlait du stress ou de la rechute de dépression, etc. Il faut qu'il y ait un service médical qui soit suffisamment important pour justifier de faire payer la collectivité. Ce qu'on dit dans le dossier de Science et Avenir, c'est qu'il y a des grandes sociétés de type LinkedIn ou la NBA qui intègrent dans leur couverture santé des applications de méditation. C'est-à-dire qu'en gros, comment ça se passe ? Les sociétés achètent des abonnements de méditation guidée, d'applications, etc. et les proposent à leurs employés pour s'en servir quand ils le souhaitent.
Et alors, en France, du coup, c'est intéressant. Il y a une mutuelle qui s'est positionnée sur le créneau, un peu comme pour l'ostéopathie. Donc, depuis octobre 2018, donc c'est une assurance santé en ligne qui s'appelle Alan. Et vraiment, il avait fait le buzz en disant qu'ils avaient noué un partenariat avec donc, Petit Bambou, toujours la même application, qui a 3 millions d'abonnés, donc quand même.
En France, ouais.
En gros, ils remboursent 25€ pour un abonnement, sachant que pour avoir une idée, les 6 mois d'abonnement, c'est 42€ et c'est 60€ pour un an, donc 25€ c'est quand même pas mal. On sent que ça s'installe quand même dans le paysage et que les mutuelles pourraient être intéressées.
J'ai donc décidé de baptiser cette opération l'opération Zen.
Qu'est-ce qui se passe clairement dans notre cerveau pendant qu'on médite ?
C'est un entraînement cérébral, un sport cérébral qui se voit dans le cerveau. Donc, il y a une étude vraiment très marquante en 2012 de l'Université d'Emory aux États-Unis qui a regardé tout simplement en IRM des personnes en train de méditer. Ils ont décrit le cycle méditatif, c'est-à-dire notre cerveau passe toujours par plusieurs phases quand il médite. Alors, essayez de méditer, là, tout de suite, vous allez voir, au début, votre esprit va vagabonder. Et le vagabondage de l'esprit met en jeu un réseau qui s'appelle le réseau mode par défaut, qui est très important dans le cerveau. Donc, on pense à plein de choses. Puis, tout d'un coup, on se rend compte qu'on pense à plein de choses. On se dit, oh là là, il faut que je revienne à ma respiration, par exemple. Donc là, on focalise son attention. Et ensuite, on maintient son attention. Et ça demande un véritable effort. Mais essayez, c'est quelque chose. Surtout qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous rendez compte, comme notre attention est captée par tout un tas d'autres choses. Donc, c'est un véritable effort cérébral de revenir. Alors, ça peut être sur mon souffle, mais vous pouvez aussi méditer en coupant des carottes. Hein. Mais en vous concentrant sur le fait de couper des carottes.
Ouais.
C'est la première phase de régulation de l'attention. Et ensuite, quand on gère ses émotions, ça fait intervenir le cortex préfrontal gauche, qui est plutôt actif dans les émotions positives. Et là, lorsqu'on médite, il est particulièrement actif.
Au point que, alors j'ai lu ça dans votre dossier, que en gros l'épaisseur de ce cortex était influée. Elle augmentait pour les pratiquants intensifs.
Chez les experts méditants, c'est mais ça. On en est à 30 000 heures de méditation. Hein. Au bout d'un moment, forcément, comme tout entraînement mental, le cerveau se transforme.
Mais du coup, est-ce qu'il y a des contre-indications à cette pratique de la méditation? Tout à l'heure, on parlait de déprime et du fait que ce n'était pas adapté à toutes les personnes. Hein.
Oui, alors tout à fait. Et d'ailleurs, quand on parlait de remboursement par la sécurité sociale, c'est qu'il y a aussi tout un tas de choses qu'on ne sait pas. Ça ne fait pas si longtemps qu'on s'y intéresse et les choses sont instables. Il y a des chercheurs qui se mettent à travailler très sérieusement là-dessus, notamment Willoughby Britton, directrice du laboratoire de neurosciences cliniques et affectives à l'université Brown aux États-Unis, qui elle met en lumière des risques sérieux, et c'est plus particulièrement chez des profils ayant des troubles psychiatriques. Donc il y a une mise en garde qui est faite auprès des personnes pouvant souffrir de schizophrénie, de bipolarité ou même de dépression. On parlait des bénéfices de la méditation dans la dépression, c'est uniquement quand la dépression n'est pas en phase aiguë, c'est-à-dire que c'est pour éviter la rechute. Mais quand quelqu'un est dépressif, il vaut mieux faire très attention. Il y a un médecin français qui nous expliquait que voilà, cet effort d'interoception, c'est le retour sur soi, sur la respiration, le cœur, tout ça, chez quelqu'un qui est dépressif et qui a donc des idées noires, peut s'apparenter à une torture plus qu'un traitement. Quand on va mal, être seul chez soi à méditer, ça peut empirer les choses. Et donc, il y a tout un tas d'études qui commencent à sortir pour étudier. C'est évidemment des cas particuliers, c'est compliqué à appréhender comme sujet. Mais ce que me disait cette chercheuse, que j'ai trouvé assez frappant, elle a travaillé pendant longtemps sur les bienfaits de la méditation et elle a publié dans des revues scientifiques. Et quand elle s'est mise à se dire « Mais ah, peut-être qu'il faut faire attention, parce qu'une méditation qui a une prétention thérapeutique, le principe de la thérapie, c'est d'abord ne pas nuire. C'est le principe de la médecine, c'est d'abord ne pas nuire aux patients. » Et donc, elle s'est portée là-dessus et elle s'est rendue compte qu'il était nettement plus difficile de faire passer ses études sur les effets négatifs. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi un effet de mode et qu'on est peut-être plus réticent à se pencher sur ces aspects négatifs, qui n'effacent en rien les aspects positifs par ailleurs.
Est-ce qu'aujourd'hui, on a le droit d'interroger les bienfaits de la méditation ?
Moi, je pense qu'il le faut.
Il faut.
Pas dire du mal pour dire du mal. Mais il faut critiquer, absolument.
Il s'agit d'avoir une approche critique sur une pratique nouvelle.
Et d'ailleurs, je parlais des 2000 publications. Sur ces 2000, il faut faire beaucoup de tri parce que certaines ne sont pas étayées ou mal étayées. Les cohortes peuvent être très, très petites. Enfin,
ouais,
vraiment, il y a encore beaucoup de travail à faire sur la qualité des études.
Ouais, il y a un problème d'échelle sur ces études. Ce n'est pas évident de trouver un groupe placebo qui ne sait pas qu'il ne médite pas. C'est vrai qu'il y a un problème scientifique. Donc, ouais, il faut laisser un peu le temps à la science avant d'être sûr qu'il n'y a que des bienfaits. Et juste pour compléter ce que tu disais sur la dépression, je m'intéressais moi aux addictions et c'est vraiment la même question. C'est-à-dire que, évidemment, quand on est sous influence, rester 20 minutes assis contre le mur, les yeux fermés, c'est impossible. Enfin, donc, on ne va pas se mentir. Et d'autre part, une des psychiatres que j'ai interviewée me disait « Attention, parce que parfois, les addictions cachent un trouble psychiatrique, bipolaire, schizophrénie. Si on n'est pas suivi dans ce processus-là, on va peut-être régler son addiction et que si on décompense, si on n'est pas suivi par un psychiatre à ce moment-là, ça peut être très compliqué. Donc la méditation, quand c'est thérapeutique, c'est avec quelqu'un, un psychiatre, un addictologue qui est formé à cette question de la pleine conscience. C'est pas forcément seul avec Petit Bambou en 10 minutes qu'on va régler ses problèmes d'addiction ou de troubles bipolaires.
C'est un warning que vous donniez dans le dossier, c'est-à-dire rapprochez-vous de professionnels, de personnes qui ont un label en quelque sorte, c'est ça, hein ?
Oui, tout à fait. Alors c'est un autre écueil de la méditation. J'ai interviewé des spécialistes de la dérive sectaire et qui me disaient que dans les signalements qu'ils recevaient, de plus en plus, la méditation pouvait jouer un rôle pour développer une emprise mentale. C'est le métier des leaders sectaires, c'est de développer une emprise mentale auprès de leur proie. Et c'est vrai que ce sont des vrais programmes de méditation. On va faire méditer la personne, mais on va en profiter en même temps pour le rendre dépendant à cette méditation. Et ça, les gourous le voient très bien, la méditation peut aussi être un instrument idéal de par son efficacité
réelle,
qu'il faut exploiter sur le volet thérapeutique. Ils peuvent le détourner pour mieux contrôler les gens. C'était la CAFES qui me disait que 30% des signalements qu'ils reçoivent désormais a cette dimension méditative, soit pour appâter les personnes, soit pour développer cette emprise.
Donc là, tu nous dis qu'en gros, un tiers des signalements de dérive sectaire concernent en gros des pratiques méditatoires en quelque sorte.
Oui, ce que j'ai trouvé évidemment énorme. Après, c'est un univers qui va se référer aux pratiques ancestrales, le bouddhisme, ce sont des arguments qui peuvent avoir prise parce que justement elles sortent du cadre sociétal
classique.
Classique. Mmh. C'est cette courbe du bonheur inversé, moi, qui m'a aussi beaucoup surpris.
Il ne faut pas trop méditer.
Pas
trop longtemps.
Et alors, j'ai trouvé ça formidable, parce qu'on a l'impression, plus on médite, on voit les moines bouddhistes, ils sont formidables, ils ont le sourire jusqu'aux oreilles toute la journée. Et on se rend compte qu'en fait, il y aurait un temps optimum pour les bienfaits de la méditation, au-delà duquel les bénéfices vont aller plutôt en déclinant. Mmh. C'est très difficile à évaluer puisque ça dépend des profils. Il faudrait avoir une approche individualisée. C'est encore trop tôt pour faire ça. Mais il y a des gens, c'est cette chercheuse Willow B. Britton encore qui me donnait cette anecdote qui est quand même folle. Elle me disait, j'ai vu des gens qui avaient tellement médité et donc régulé leurs émotions, puisque c'est ça le but, ils avaient surrégulé leurs émotions, donc ils contrôlaient les émotions négatives, mais ils n'en avaient plus beaucoup de positives non plus, jusqu'à se désintéresser parfois de leur progéniture. Voilà.
Okay.
Ce qui est quand même...
C'est rassurant.
Mais bon, on n'est pas sur des 5 minutes de méditation par jour.
Non, et tu mets le doigt sur quelque chose qu'on n'a pas évoqué ici, c'est les effets secondaires.
Ouais.
C'est-à-dire que quand on médite trop ou mal, ou que ce n'est pas indiqué, on peut avoir donc une distanciation, une dissociation. Et puis même, certains parlent de bad trip, c'est-à-dire comme des hallucinations, mais pas positives du tout.
Ok, donc si vous aviez des recommandations en quelque sorte à faire, c'est une séance quotidienne, ok, mais 5 à 10 minutes, c'est vrai que c'est compliqué de donner des chiffres, mais si jamais, comme moi, vous n'avez jamais fait de méditation, il faut bien commencer quelque part.
Oui, on dit 5 à 20 minutes par jour.
Voilà, moi, c'était la psychiatre que j'ai interviewée me disait 20 minutes, il n'y a pas trop de danger.
Ok.
Donc,
et déjà, il faut les trouver, les 20 minutes, quand on a des enfants, un boulot... Prenant.
Oui, et puis déjà, si jamais vous êtes occupé à lire le journal 20 minutes, en plus, vous n'aurez pas le temps derrière pour méditer. Mais bon.
Allez, petit, concentre-toi. Utilise ta tête.
Alors, la vraie question, Yana, derrière, c'est est-ce qu'on peut recommander la méditation à nos petits?
Alors, je pense que oui. Comme tu disais, Elena, il y a quand même des études qui ont l'air très positives sur les questions de sommeil. Et c'est important pour eux d'avoir un sommeil important. On sait que ça joue énormément pour la mémoire. Donc, voilà, ils sont en train d'apprendre plein de choses. Pour l'anxiété, si ça limite l'anxiété, ça peut être aussi très intéressant. Ma collègue Delphine Banco avait fait un article en 2015. Au moment où on parlait énormément de la publication du livre « Calme et attentif comme une grenouille », c'est vrai que ça fait un buzz énorme et un carton et ça continue de le faire. Et elle avait interviewé Jeanne Siofachin, qui est psychologue clinicienne, qui propose des ateliers pour enfants de pleine conscience. Et alors, elle lui expliquait, en entraînant le cerveau à être attentif à ce qu'il vit, on crée de nouvelles connexions neuronales qui vont permettre à l'enfant de se concentrer plus vite, plus intensément et plus efficacement. Ainsi, habitué à cette gymnastique, le cerveau se fatiguera moins. On imagine à quel point ça peut être important, intéressant pour des enfants. Après, ça dépend des enfants, comme d'habitude.
Ça peut être reposant pour les parents aussi. Pour l'anecdote, j'ai fait une séance de petite méditation comme ça avec mon fils parce que à 16h30, ils sont surexcités, ils sortent de l'école, etc. Et je me suis dit, hop, je vais m'offrir
un temps calme.
Un temps, exactement, un temps calme. Donc, c'était la grenouille, se concentrer sur sa respiration. C'est extrêmement simple, ça dure 5 minutes. Et c'est vrai que ça calme tout le monde, en fait.
Et ils, le font à l'école. Hein.
De plus en plus d'écoles
au retour de la récréation ou le matin. C'est aussi une façon de se poser, tout simplement, de s'asseoir. Il n'y a pas besoin de choses très compliquées. Hein. Il suffit de s'asseoir et juste de respirer.
Et je disais aussi qu'ils le font parfois avant un contrôle. C'est vrai que ça peut être intéressant quand on sort de la récré complètement énervé, le bruit, etc. Hop, on se reconcentre. Voilà, ça fait baisser le stress. Ça peut être intéressant. Et moi, pour la petite année, moi, j'ai essayé de faire petit bambou avec ma fille de 4 ans, échec total, parce qu'évidemment, les écrans, ça les obnubile. Et du coup, elle n'était pas du tout concentrée sur le son, mais sur l'image. Elle voulait regarder le téléphone. Ce n'était pas le but. Donc, je pense que ça dépend de l'âge, ça dépend des enfants, ça dépend quel programme. Il faut faire attention.
Alors justement, on a beaucoup parlé de petit bambou dont les pubs dans le métro sont incontournables. On les voit partout pendant toute l'année. On a évoqué d'autres livres, mais... si, comme moi, je le disais tout à l'heure, vous n'avez jamais fait de méditation, mais que l'aventure vous tente, par quoi commencer en quelque sorte? Est-ce que Petit Bambou, c'est une bonne porte d'entrée? Ou est-ce qu'il y a des vidéos sur YouTube qui sont intéressantes à checker?
Moi, j'ai testé Petit Bambou et je trouve que c'est intéressant parce que déjà, il y a un programme gratuit. Donc, c'est vrai, quand on n'a pas forcément envie de s'impliquer direct, il y a une dizaine de séances qui sont gratuites, qu'on peut faire autant qu'on veut. Et si on trouve qu'il y a des bienfaits ou que ça nous parle, on peut après s'abonner. Donc, moi, je pense que c'est une bonne porte d'entrée. Après, je n'ai pas testé 10 000 trucs. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui sont plutôt sur des applications en anglais. Parce qu'elle les trouve plus abouties ou que l'anglais ça les dérange pas. C'est vrai que moi j'ai pas fait ce choix-là, j'ai essayé une fois ou deux et puis ça me parlait pas. Alors les vidéos YouTube, je pense qu'il y a vraiment de tout. J'ai pas tout exploré.
Oui, il y a de tout. Moi j'ai regardé un peu et il y a de tout et des trucs. Bon, c'est difficile.
Donc pour l'instant, on ne conseille pas d'aller sur YouTube. Quoi.
Peut-être privilégier l'audio justement pour pas être encore accaparé par un écran, ce serait pas mal.
Il y a une autre appli qui est pas mal téléchargée, c'est Zenfi aussi. Mais c'est sur le même modèle, c'est des séances de méditation guidées, donc faites comme ça, installez-vous comme ça, respirez. Voilà. C'est, après, les gens essayent et puis ils voient si ça leur plaît. Mmh.
Quoi. Ce que je voulais te conseiller pour commencer, c'est essaye pas déjà de te mettre en lotus.
Oui, la position.
Parce que ça, c'est quand même l'image classique du méditant. Mais or, on n'est pas du tout obligé d'être en lotus. Tu peux même marcher. Il y a des méditations marcher. Juste, c'est de se déconnecter de tout ce qui peut te déranger. Et puis juste s'asseoir et ne rien faire, ne rien faire. Respirer. C'est déjà pas mal.
S'endormir.
Bah, assis, oui, c'est plus compliqué. Mais ne cherche pas à faire quelque chose.
Oui, du coup, c'est ça. C'est soit s'asseoir confortablement sur une chaise, mais en restant bien droit, ou alors la position. Alors, j'ai cru comprendre, c'est une position qui s'appelle la position birmane, qui est un dérivé de la position du lotus, mais plus accessible. En gros, c'est on se met en tailleur, on met le dos bien droit, et ça suffit pour commencer. On va dire, si après on a la souplesse et la pratique, on peut tenter la position du lotus.
Mais il faut être confortable, hein, parce que si on a mal partout et un lotus, honnêtement, c'est dur à tenir comme position. Hein, donc, autant surtout être bien, confortable.
Mais même rester 20 minutes le dos droit, pas évident. Hein. Mm-hmm. On est tellement avachis sur nos ordinateurs et tout qu'on s'en rend compte, en fait, la première fois qu'on le fait, que ah, bah, ça fait mal au dos, en fait. Enfin, personnellement, moi, j'ai galéré.
Donc, c'est la méditation de pleine conscience du mal de dos, quoi.
Non, mais après, ça passe. Ok. C'est un cheminement.
Très bien.
Le psychiatre que j'ai eu me disait beaucoup, c'est un cheminement, il ne faut pas croire que ça se fait en deux secondes.
Je rajoute une petite note en fin d'émission, je m'engage à vous préciser dans les notes de description de l'épisode, des recommandations en quelque sorte, je vais essayer de trouver des épisodes de podcast ou des podcasts tout simplement qui sont consacrés à la méditation pour que vous puissiez, on va dire, tester les choses d'un point de vue uniquement audio. Il me semble que l'application Magellan, notamment, propose ce genre de choses pour des balades en forêt ou tout simplement pour se poser chez soi, mais vous aurez tout ça dans la description de l'épisode, en sachant que voilà, on vous a recommandé le programme gratuit de Petit Bambou pour commencer, et je m'y attelle. On en reparle dans un mois, je testerai les choses. Vous pouvez rouvrir les yeux, la séance est terminée. Sachez que si elle vous a plu, vous pouvez redemander les mêmes coachs pour la prochaine fois, donc à savoir Oyana Gabriel, l'experte santé de 20 minutes, mais aussi Elena Sender et Hugo Jalinière de Science et Avenir. Merci à tous les trois.
Merci.
Merci.
Pendant que vous vous remettez de vos émotions, j'attire votre attention sur la page iTunes de 6ème Science pour la faire remonter dans les charts et toucher le nirvana podcastique. Elle a besoin de votre soutien et de quelques étoiles ou bien d'un commentaire, vous faites comme vous voulez. Je vous laisse méditer sur ce que vous pourriez y dire. Pour toutes les questions ou remarques, rien de plus simple, vous pouvez directement nous écrire à audio@20minutes.fr, 20 en chiffres et minutes au pluriel. À dans un mois, et n'oubliez pas, on envoie de la science dans tous les sens.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode ? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.